terminer et commencer la semaine, écoutez Cyril Ekuala et son équipe. Né au Québec tous les dimanches de 13 à 15 heures sur CIBL.
Souad El Malem, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être là. Merci d'avoir accepté cette invitation où on va parler de... J'ai dit entrepreneuriat, est-ce que c'est vraiment ça? Non, ce que je veux dire, c'est que quand on présente Souad El Malem, on dit entrepreneur.
Tout à fait.
Parce que c'est...
Tout à fait. Je pense que ça fait partie de l'ADN de Souad El Malem, on peut dire ça. Premièrement, merci beaucoup pour l'invitation. Je suis ravie d'être parmi vous aujourd'hui. Effectivement, l'entrepreneuriat, puis l'histoire, elle remonte à longtemps. Parce que moi-même, si je fais un résumé rapide par rapport à mon arrivée au Canada.
Ah non, ça c'est moi qui vais faire ça parce que
okay.
Non, j'ai plaisir à faire ça parce
parfait.
Que c'est tout un non c'est tout un parcours et surtout un parcours très intéressant parce que moi c'est ça qui était c'est aussi ce que je voulais mettre de l'avant.
Okay.
On va essayer de dire ça de manière simple. Grosso modo, c'est des études au Maroc notamment qui sont sanctionnées par un diplôme licence en droit.
C'est en droit
au Maroc, puis arrivé à Montréal. Alors, où à Montréal, c'est au HEC, mm-hmm. Il y a un baccalauréat en commerce, un bac conjoint en gestion des opérations de la production et système d'information. Et puis voilà, boum, directement, c'est le marché du travail. Avec Nortel Networks. Mm-hmm. Alors là, je vais m'arrêter là-dessus. Il y a 15 ans, au sein d'une grosse compagnie, Bombardier. Mm-hmm. On va s'attarder là-dessus, mais juste un petit retour, un peu en arrière. Du droit, pourquoi on vient après faire du commerce et puis surtout la gestion des opérations, système d'information?
Bonne question. En réalité, le droit, c'était... parce que le droit, je n'ai fait qu'un diplôme universitaire général. Puis je n'étais pas intéressée vraiment à faire le droit. Je viens d'une famille de politiciens et c'était comme un passage nécessaire.
Pour faire de la politique.
Mon intention n'était pas faire de la politique, mais le fait que mon papa faisait de la politique puis qu'il m'a un petit peu, on va dire, influencée d'une certaine manière, de manière à avoir peut-être... des études dans un domaine qui pourrait ouvrir la porte ou les portes à plusieurs possibilités. Je dirais que j'ai joué le jeu, mais j'avais un plan de venir au Canada pour étudier au HEC parce que je voulais HEC.
Mm-hmm.
Coûte que coûte, mon père voulait dire, bon, si tu veux HEC, va à Paris. Bien sûr, tout le monde allait à Paris.
Et pourquoi Montréal?
Ben Montréal, c'est que j'avais des amis qui faisaient leurs études déjà ici. Puis de la façon qu'ils m'ont parlé de cette métropole très, très multiethnique, d'une métropole très, très ouverte, j'étais séduite avant même de mettre les pieds ici.
Mm-hmm.
Donc HEC pour HEC, j'ai décidé que c'est HEC Montréal. Donc l'aventure avait commencé comme ça. Puis la première année, l'idée était de faire mes études et de rentrer. Mais la première année était une année qui m'a fait changer d'idée, à la fin de la première année, au fait. Première année était particulière parce que, bien sûr, on s'habitue au froid et au classique.
Bien sûr.
Mais après, je savais que j'allais rester. Et disons que une première année comme ça, qu'on découvre un pays où on se sent bien. Pour faire une histoire courte, j'étais partie en voyage au Maroc l'été, puis dans l'avion... je peux dire que j'ai senti que j'étais, juste en voyant le symbole de Montréal qui est le stade olympique, j'ai senti que j'étais home, puis je me suis sentie chez moi.
Alors là, vous avez compris, hein, vous venez, si vous survolez Montréal, vous voyez le stade, le toit, comme on appelle le toit du stade olympique, ben voilà, vous tombez, vous tombez en amour avec... avec cette ville. Soit j'aimerais aller directement lorsque vous finissez ces études au HEC, il y a Nortel Networks, mm-hmm. où vous allez, vous travaillez un petit moment, et puis vous retrouvez chez Bombardier.
Tout à fait.
On va dire Bombardier Aerospace, où vous dirigez l'initiative de définition et de mise en œuvre du système manufacturier d'information pour l'équipe qualité et l'équipe exploitation. Alors, quand je dis ça, ouais, tout le monde dans le studio écarquille les yeux parce qu'on
se dit,
ça mange quoi en hiver, cette histoire?
Qu'est-ce que ça mange en hiver? En fait, Quand j'ai été engagée chez Bombardier en 2001, c'était pour l'implantation de SAP, qui est le système manufacturier, un ERP qui était le système... En fait, le projet qu'on avait fait en 2001 chez Bombardier, c'était le plus grand système manufacturier, en fait, le plus gros projet d'implantation de système manufacturier au monde d'SAP.
Okay.
C'est vraiment un gros, gros projet, plusieurs millions dépensés en dedans de 3 années. C'était très, très complexe et complet. Je dirais. Et puis, quelle belle expérience. Et puis, c'est mon début d'aventure chez Bombardier. C'était vraiment...
C'était un projet comme celui-là, un gros projet.
Un gros projet comme ça, avec une grande, grande équipe. On était une centaine de personnes qui travaillaient sur ce projet, puis, et plus. Voilà. Donc, l'idée, c'était vraiment de travailler sur l'informatisation de façon unifiée d'un système ERP sophistiqué pour Bombardier Aéronautique. Donc, ça, c'était le
En 2001. En 2001.
Exactement.
Quand j'ai dit tantôt au début, entrepreneur face à moi, ça pouvait paraître quelque part, entre guillemets, réducteur. Et je le dis pourquoi ? Parce que bon, l'entrepreneur se lève, a une idée et dit, je vais créer quelque chose, je vais entreprendre. Mais non, dans votre cas plus précisément, c'est parce que vous êtes à Bombardier, donc vous dirigez ce système-là et à l'intérieur, pendant des années, vous vous dites, non, je ne peux pas m'arrêter à ça. Je vais créer quelque chose. Vous devenez ce qu'on appelle aujourd'hui intrapreneur.
Exactement.
Voilà. Ce qui fait que vous vous retrouvez à un moment donné au Maroc, donc votre pays d'origine, pour représenter Bombardier.
Quelque chose comme ça.
Quelque chose comme ça, où vous mettez en place, en fait, la construction d'une usine d'avions au Maroc, d'avions Bombardier.
Exactement. Mm-hmm. En fait, l'histoire a commencé en 2005. Qui était quand Bombardier Aéronautique a décidé de s'implanter au Mexique. Moi, la Marocaine en moi, elle a dit pourquoi pas le Maroc. Et c'était complètement une réflexion tout à fait émotive et non fondée par rapport aux possibilités d'un projet comme ça.
Okay.
Et l'intrapreneur en moi, parce que j'avais un peu sorti de tout ce qui était technologie de l'information chez Bombardier, j'ai commencé à faire un peu de stratégie. Et puis cette évolution m'a permis d'être dans une zone où je pouvais réfléchir comme ça. Et l'intrapreneur en moi a vu l'opportunité d'un projet. Et j'ai commencé à travailler à l'interne pour convaincre mes patrons chez Bombardier pour dire qu'on devrait considérer une installation d'une usine de Bombardier Aéronautique à Casablanca, au Maroc. Ça a commencé tranquillement, la réflexion, vers 2005-2006. Mais le sujet est devenu plus confirmé en 2008-2009, où on m'avait donné le feu vert pour mener une étude très, très sérieuse et stricte avec une dizaine de personnes pour comparer plusieurs pays tels que le Mexique, le Maroc, la Tunisie puis la Turquie. Question de faire un comparatif réel, un business case, comme on dit dans le jargon, pour s'assurer que ben, c'est pas parce que je suis marocaine qu'on va aller au Maroc, mais il a fallu que ça soit justifié scientifiquement.
Tout à fait. Et économiquement, j'imagine.
Bien sûr, quand je dis scientifiquement, c'est pour faire pousser l'idée de l'économique jusqu'à une extrême, quoi. Parce que c'était pas un mouvement à faire ou un geste à faire comme ça anodin. C'était un gros projet. C'était quand même plus que 200 millions de dollars d'investissement dans un projet comme ça. Et voilà. Donc, c'était le fait que je l'ai mené. Comme j'ai dit, la réflexion a commencé en 2005, mais l'implantation et la signature officielle avec l'État marocain est arrivée seulement en 2011. Et l'usine est sortie complètement de terre en 2014. Donc, imaginez...
Tout ce temps, la longueur.
Donc, l'entrepreneur était à son apogée.
Tout à fait. Mais là, il y a quelque chose d'autre qui, moi, m'interpelle un peu. C'est-à-dire qu'on parle aéronautique. C'est l'image... Aujourd'hui, peut-être que les choses ont changé, mais à l'époque, quand on parle d'aéronautique, on pense plutôt, on voit un milieu masculin. Comment vous évoluez là-dedans? Cette époque. Est-ce que je me trompe?
Non.
Peut-être que c'est même encore le cas, parce qu'il me semble d'ailleurs que il y a moins de 2 semaines, on a parlé justement d'un problème comme celui-là ici au Québec.
Je pense que traditionnellement, vous parlez d'un monde masculin au Maroc
Mais de manière...
Écoutez, ici, quand j'avais rejoint Bombardier en 2001, il y avait effectivement très très peu de femmes, surtout dans les métiers qui sont, c'est-à-dire que quand c'était des métiers de ressources humaines ou de tout ce qui est communication et tout ça, c'était ou même de chaînes de fournisseurs. Tout ça, c'est...
On peut trouver des femmes.
Mais quand il s'agissait de stratégie ou des choses qui étaient d'un autre ordre, il y avait certainement beaucoup moins de femmes, c'est clair. Enfin, comment évoluer, mais c'est d'agir.
C'est par la compétence d'agir.
Moi, j'ai une philosophie très, très simple par rapport à ça. C'est que quand je suis dans un milieu professionnel, je suis une professionnelle, point. Je ne suis ni femme, ni homme, ni... Je suis juste un individu qui bosse, qui travaille, qui est sérieux et qui fait ce qu'il a à faire. Et puis après, les gens... je pense que les gens autour, quand on impose une posture comme ça, bon, on ne voit plus le sexe.
Soit vous n'êtes pas en train de me dire que vous ne voyez pas peut-être des petits mots, des trucs de discrimination sur votre chemin quand même.
On peut les voir.
OK.
Mais on décide de les... C'est comment on décide de les traiter qui est le sujet. Je ne dis pas que ça n'existe pas. Mais il ne faut pas se mettre au même niveau de ces problématiques-là. Il faut prendre de la hauteur. Il faut démontrer à la personne en face de nous la bêtise de faire ce genre de choses. Il y a différentes façons de le démontrer, dépendamment de l'opportunité qu'on a en face, parce que des fois, on peut sensibiliser la personne en face, ou on peut même, par l'absurde, démontrer que c'est ridicule, des positions ou des réflexions, ou il y a plusieurs situations. Mais c'est toujours la hauteur de la posture qui fait que l'autre en face respecte ou ne respecte pas.
Ou ne respecte pas. Voilà. Revenons à notre bombardier. 2014, l'usine sort de terre finalement au Maroc. On est en 2023. Est-ce qu'elle existe toujours, l'usine ?
Tout à fait. Elle existe toujours.
Elle existe toujours. Elle fournit toujours.
Elle existe toujours. Tout à fait. Sous d'autres cieux, elle existe toujours. Oui. Dans la mesure où Bombardier avait vendu toutes les opérations de Bombardier aéronautique pour les avions commerciaux, incluant l'usine de Belfast. Et bien sûr, l'usine du Maroc, qui faisait partie des installations pour les avions commerciaux. Comme vous savez, aujourd'hui, Bombardier se focalise sur les avions d'affaires.
Mais l'usine est toujours là. Les gens continuent à travailler. Pourquoi vous partez de Bombardier ? Parce que vous en êtes parti.
Tout à fait. Je suis partie en 2015. Mais c'était
An après que ce beau projet que vous avez porté voit le jour. Pourquoi ?
C'est normal, dans la mesure où quand on vit le high d'une dizaine d'années sur un projet de cette envergure-là, où j'ai tellement appris. Bombardier, d'ailleurs, c'est une école exceptionnelle. On apprend tellement. Puis pour moi, j'ai tellement appris durant cette période où j'ai estimé que j'avais acquis une expérience, que je ne pouvais pas rester là à espérer quelque chose d'une grande envergure comme ça, et de un. Et de deux, l'idée, c'était de dire, bon, je pense que Bombardier avait les moyens d'avoir une ressource comme moi pour travailler sur des choses à l'international. Mais il y a d'autres entreprises, surtout les moyennes entreprises, n'ont pas le luxe d'avoir quelqu'un à l'interne pour faire ce travail. Donc l'idée, c'est de dire, bon, je vais démocratiser un peu mon expertise et de la mettre à la disposition d'entreprises québécoises, canadiennes, nord-américaines, voire internationales. D'ailleurs, ce qui est arrivé, parce que mon premier client était français, le deuxième américain. Donc mon plan avait commencé d'une façon, mais il a fini autrement par rapport à la géographie que je couvre. Mais l'idée, c'est de dire j'ai une expertise de savoir comment on fait des projets à l'international, comment planifier et superviser la construction d'usines pour la capacité industrielle. Donc, je vais la mettre à la disposition de clients potentiels.
Et c'est là la naissance de Systémique,
exactement.
Votre compagnie.
Exactement.
J'ai lu quelque part que lorsque vous la présentez, donc il y a une entreprise service conseil, j'ai lu quelque part qu'on la traitait, je ne sais pas si c'est encore le cas, de non conventionnel.
Tout à fait.
C'est pourquoi ?
C'est parce qu'on est les seuls qui faisons ce que nous faisons, tout simplement, sans prétention, parce qu'il y a beaucoup de firmes conseils qui font du conseil. Mais nous, on fait du conseil, mais ce qu'on met sur des slides PowerPoint comme stratégie, mais on l'implante. On a les moyens pour les implanter. Donc nous, par exemple, si on est avec un client qui, par exemple, il veut aller à l'international sur trois aspects différents, que ce soit la capacité manufacturière, dans ce cas-là, il veut construire une usine. Donc non seulement on va faire la stratégie, on valide si c'est une bonne idée ou pas, puis après on fait les étapes et la feuille de route, puis après on supervise l'implantation jusqu'à livrer l'usine clé en main. Donc, chose que font pas les firmes conseils qui existent aujourd'hui.
Elles pensent à la stratégie, puis elles laissent
les entreprises se débrouiller par leurs propres moyens parce qu'ils n'ont tout simplement pas cette expertise. Je dis bien, c'est un concours de circonstances d'avoir vécu ce que j'ai vécu chez Bombardier pour développer une expertise comme ça qui va jusqu'à de la réflexion, la stratégie jusqu'à l'implantation. Qui est fait par la même personne. Donc ça, c'est un concours de circonstances que j'estimais précieux et qu'il fallait le mettre comme une offre de service.
Vous devez être très demandé.
Pas mal. On ne chante pas.
Oui, non, c'est ça. Je vis
dans les avions, en
fait. Mm-hmm. Donc ça va, ça se passe bien et tout.
Tout à fait. Mm-hmm.
Est-ce que c'est un métier aujourd'hui, ce que vous faites? Est-ce que c'est un métier où on trouve de plus en plus de femmes aujourd'hui?
Je pense que de façon générale, si on parle d'aéronautique, je suis impressionnée parce que je travaille beaucoup sur le Maroc et puis je vois déjà le Maroc, les gens ne savent pas qu'il y a au-delà de 140 entreprises en aéronautique.
Au Maroc.
Okay. Donc,
je l'apprends.
Bien sûr, oui. Mais même moi, quand j'ai implanté Bombardier au Maroc, au démarrage, c'est quand j'ai découvert cet écosystème, il y avait déjà au-delà de 90. Et puis pour moi, c'était la preuve ultime qu'il y avait quelque chose là pour justement... C'était parmi les critères qui ont fait qu'on a pensé que c'était une bonne idée d'aller dans un écosystème comme ça en partant, parce qu'on partait pas dans le désert.
On partait
dans un écosystème aéronautique déjà bien, bien amorcé. Donc ça, c'est le A. Pourquoi je parle du Maroc? Parce que, de façon générale, quand les gens me parlent du Maroc, ils ne comprennent pas nécessairement que, par exemple, l'existence de la femme dans ce domaine, plusieurs entreprises aéronautiques au Maroc, l'équipe de direction, il y a plus de femmes
que d'hommes. Oui.
Et chose qu'on a peut-être moins... Même moi ici, si j'ose dire, parce que je compare et je vois, et puis c'est
une politique mise en place pour mettre les femmes en avant, ou elles sont attirées par ce métier-là?
Je pense que c'est une histoire de compétences.
Okay.
Les femmes, il y a plus de femmes au banc d'école en termes de en ingénierie, puis dans des métiers, puis il n'y a pas nécessairement de je pense qu'il n'y a pas d'obstacle, et puis c'est la compétence qui parle, et puis après quand il y a des femmes qui, en termes de gestion, il y a beaucoup de compétences chez les femmes que j'ai vues, comme j'ai dit, c'est toujours impressionnant. J'avais avec moi souvent des groupes qui visitaient le Maroc et quand on rentrait, on est reçu par une des compagnies en aéronautique. Quand ils voient l'organigramme, puis il y a plus de femmes, il y a toujours cette réaction parce qu'on est nord-américain, on arrive, on a une idée, mais c'est tout à fait le contraire. Ce qui est une excellente
Une excellente chose. Le Québec et d'autres sociétés devraient en prendre de la graine, comme on dit. Donc, comme quoi la dame devant nous, devant moi, vous voyez un peu le parcours. Évidemment, quand on a un parcours comme celui-là, on se dit on va redonner aux autres. Ça, c'est ce qui vous amène à être très impliqué aussi sur le plan communautaire, à différents niveaux. Vous avez créé, je sais qu'il y a le Women in Space, dans l'aérospatiale, vous avez créé une association
en 2013 avec une dame d'Afrique du Sud. On avait créé
Women in Aerospace
Africa. Donc ça, c'était en 2013. Et puis depuis, bien sûr, mon implication prenait différentes formes. Mais si je parle de dernièrement, ou à partir de 2018, je dirais, depuis que j'étais nommée au CA d'entreprendre ici par le ministère de l'Économie et l'Innovation en 2018 comme membre du CA d'entreprendre ici. J'ai siégé avec mon amie et actuellement l'honorable Amina Gerba, qui est sénatrice à Ottawa. On a siégé, on a monté cette équipe from scratch, comme on dit. Aujourd'hui, on a le succès que nous avons et je suis ravie d'avoir, en 2021, pris la relève. J'étais élue à l'unanimité par l'équipe comme présidente du conseil. Tout à fait.
Et là, vous allez avoir justement le 14 novembre. Oui, c'est ça, c'est
exactement.
Le 14. C'est la sixième édition déjà, sixième gala de remise de bourse. Pour ceux qui ne connaissent pas, bon, l'entreprendre ici offre 25 bourses par an, c'est ça?
Actuellement, c'est 24 bourses de 25 000 $.
Voilà.
Tout à fait. Et ça, on fait ça depuis... C'est comme tu as dit, Cyril, effectivement, c'est la sixième édition de bourse. En fait, 5 ans, parce qu'on avait commencé avec les bourses. Oui, non, mais tout à fait. C'est 6e bourse, mais 5 années, parce qu'on avait commencé par les bourses. Puis c'était quand on fait le calcul, c'était la sixième.
C'était la sixième, d'accord. OK, exactement. C'est ça. Ouais. Donc, c'est 24 bourses de 25 000 $. Donc, à des entrepreneurs de la diversité.
Ethnoculturelle, tout à fait.
Voilà. Vous n'êtes pas membre du jury, vous?
Non, du tout. Non. Au contraire, nous sommes on a une rigueur exceptionnelle par rapport à ce travail, parce que c'est l'université. Ce travail a été fait avec le ministère de l'économie et de l'innovation au démarrage de la structure. C'est vraiment l'Université du Québec à Trois-Rivières qui prennent en charge tout le travail de recevoir les candidatures des gens qui appliquent pour la bourse. Mmh. Et ils font la sélection. Ils choisissent 100 finalistes, 60 finalistes, au fait. 60 finalistes qui, eux, vont passer devant un jury pour finir avec les 24 finalistes. Donc, l'exercice est en dehors de complètement en dehors d'entreprendre ici et de son conseil d'administration. Mmh. Donc, ça se fait de façon très, très rigoureuse.
Très rigoureuse. Ça, c'est le 14 novembre, donc où on va dévoiler
les lauréats.
Voilà, donc on ne dit rien, mais il y a une autre dernière casquette que je tiens absolument à en parler. Là, il nous reste encore quelques minutes rapides. Là. C'est votre casquette aussi maintenant de président de conseil d'administration de l'UAA. Alors, doucement, je reprends. J'ai failli dire l'Union africaine. C'est l'Union, c'est l'Union des actions pour l'Afrique. Voilà, c'est ça. C'est quoi cette organisation?
C'est une belle organisation. En fait, je suis présidente de l'organisme parce que le président du conseil, c'est Achille Obaïro.
Oui, c'est ça.
Encore dans cette aventure, c'était dans le temps de mon ami, l'honorable Amina Gerba, où on était un groupe de personnes, un groupe d'Africains, qui ont décidé de réagir en temps de crise durant le Covid.
Okay.
Il a fallu faire quelque chose.
Il s'en est passé des choses pendant le Covid.
Et en arrière de nos écrans, chacun, on a décidé de prendre des actions réelles et de faire acheminer certains matériaux médicaux pour certains hôpitaux dans certains pays africains. On a réussi à le faire. Mais comme on est un peu de cet ADN de dire on va pas... L'Afrique n'a pas besoin d'aide. L'Afrique a besoin d'être développée. Et le développement, c'est notre mission. Puis on s'est dit, ça va être notre nouvelle mission de l'UAA. Donc, United Action for Africa, son idée, c'est basé sur les 17 objectifs des ODD des Nations Unies, c'est de dire développer pour chacun des objectifs quelque chose qui des projets qu'on pourrait amener vers l'Afrique. Donc, l'idée, c'est de dire on est des Africains à travers le monde. On fait partie, on a des membres fondateurs. Qui sont sérieux, qui travaillent depuis des années, mais aussi on a des membres contributeurs, on a différentes formes. Et l'idée, c'est d'avoir des Africains à travers le monde qui travaillent sur des projets vers l'Afrique.
Okay.
Et vraiment, l'idée, c'est un peu ce que j'ai fait avec le Maroc. C'est pourquoi pas reproduire le même crime.
C'est exactement. Est-ce que c'est ouvert au public? C'est une organisation publique? Est-ce qu'on y adhère?
On peut y adhérer. On est très sérieux. Donc, pour ceux qui veulent se joindre à nous, donc il y a un processus de sélection. On va avoir des gens sérieux, des gens qui sont bien engagés. Et il y a vraiment un processus de sélection qui se base sur l'historique des gens et plein de choses qu'on fait pour justement qu'on soit considéré comme sérieux, parce que nous sommes sérieux. Mmh. Donc, pour nous, c'était d'importance. Et nous travaillons sur des projets très intéressants, tels que le Great Green Wall, où on a un MOU signé avec le groupe qui gère le grand projet de la Grande Muraille Verte en Afrique.
Okay.
Et puis d'autres projets aussi. Et l'idée, c'est vraiment d'amener notre contribution, notre expertise, que ce soit par rapport à notre groupe, le groupe élargi, et toute organisation avec laquelle nous pouvons s'engager pour une relation commune, question de travailler tous des Afro-descendants vers l'Afrique.
Vers l'Afrique. En 30, même pas 15 secondes, est-ce qu'il y a un site internet?
Tout à fait, c'est
uaa.org, hein, c'est
exactement.
Ça uaa.org, parce exactement. Que c'est l'Union... Pour l'Union
des Actions
pour l'Afrique. Voilà, uaa.org. Donc, ceux qui veulent en savoir un peu plus, on devrait prendre plus de temps. Je pense qu'on va, on va se réinviter, Swad.
Avec plaisir.
On va se réinviter parce qu'on est allé très rapidement sur des étapes là, mais il y a tout ce côté, comment dire ça, les femmes dans toute la sphère aéronautique, ces sciences-là. Puis vraiment, je veux comprendre comment on passe du droit. Au système ERP et tout ça, là, je veux comprendre ça. Merci vraiment, c'est tout le temps qu'on avait. Merci beaucoup d'être passé nous parler de ça. Donc, je rappelle, le 14 novembre, donc, il y a les 24 lauréats qui doivent tous être en train de fébrile, là. Ils savent pas s'ils font partie des 24.
Tout à fait.
Et puis, uaa.org.
Et tout à fait.
Voilà.
Tout à fait.
Et je rappelle la société, l'entreprise, je sais pas, pour, à moins que Malia veuille monter une industrie demain, mais c'est systémique.
Tout à fait.
Avec le chiffre 6.
Exactement.
Systémique.
Exactement.
Merci beaucoup d'être venu nous parler de tout ça, Swad. Ça a été vraiment un plaisir.
Merci Cyril de m'avoir reçu.
Merci beaucoup.
Plaisir.
Mon nom est Cyril Ekwala.